Bah écoutez, ça me fait plaisir de voir que Dieu continue à parler au travers de ce message les uns les autres. Et je prie que, voilà, ce n'est pas seulement Édouard, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ont médité ces paroles de la Bible et qui vont certainement pouvoir aussi témoigner. N'hésitez pas, si en réfléchissant à ce message, vous recevez quelque chose, je pense que c'est important de le partager parce que justement, c'est les uns les autres. Donc, c'est très bien qu'on puisse partager des choses sur ce message qui est tellement fondamental. J'arrête pas de penser à ce que dit Paul, mais qui est suffisant pour ces choses? Et c'est vrai que prêcher sur 1 Corinthiens 13, je trouve ça quelque part épouvantable parce que on mesure à quel point on en est loin et c'est pas évident. Mais voilà, c'est une leçon d'humilité aussi hein, de se dire voilà. J'annonce ce que dit la parole de Dieu, mais j'en suis encore loin et j'ai autant à apprendre que tout le monde dans ce domaine. Eh ben, merci Seigneur, on progresse ensemble. Alors, je vais reprendre. On avait commencé les points négatifs hein, de 1 Corinthiens 13. On va le relire parce que la traduction de Kuhn est intéressante. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Alors, on avait vu les premiers points, on en était... Je crois avoir on a lu le dernier paragraphe de la page 30. Je ne sais pas si on avait eu le temps de le lire. Ah oui, on avait. Je ne sais pas si je l'avais lu, mais bon, c'est. Il a dit quelque chose de très intéressant là, Kuhn, à propos des Corinthiens, puisque 1 Corinthiens 13 hein, s'adresse aux habitants de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, et il dit ceci les Corinthiens s'énorgueillissaient des maîtres qu'ils s'étaient choisis. Et ils les exaltaient l'un contre l'autre. Et Paul leur dit, mais qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Alors moi, je n'aurais pas nécessairement appelé ça de l'orgueil, mais Paul considère que c'est de l'orgueil. Paul utilise plusieurs fois dans cette épître ce terme qu'on peut traduire par être fier, prétentieux, jouer l'important, il donne les références. Il ne l'utilise qu'une seule fois par ailleurs. Les Corinthiens étaient fiers de leurs dons, de leurs enseignants, de leurs connaissances, et même de leur liberté de péché. Curieux. Paul leur dit ici que cet orgueil qui les mettait au-dessus des autres prouvait tout simplement leur manque d'amour. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir ce texte. Sur le coup, on dit, ben non, il n'y a pas que ça. C'est vrai que le manque d'amour entraîne énormément de difficultés dans la vie chrétienne. Et qui est suffisant pour ces choses, comme dit Paul. C'est pas évident, hein, de laisser vraiment l'amour de Dieu nous remplir face à toutes les situations du quotidien. Surtout que l'amour de Dieu, quelque part, il est un petit peu plus compliqué au XXIe siècle. Parce que depuis. Oh, allez, les littéraires, dites-moi, depuis la littérature sentimentale de Lamartine, Hugo, ça fait quoi, 2 siècles? Où on considère que. L'amour, c'est une sorte de truc nébuleux, un sentiment qu'on ne maîtrise pas. Enfin, voilà. Et la littérature a imprégné. On a tous à l'école étudié Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Voilà. Il y a tout un poids de littérature sur l'amour qui est complètement trompeur. Parce que c'est plutôt une littérature sur la passion que sur l'amour, l'amour véritable, etc. Et du coup, c'est difficile pour nous, quand on dit amour, ce que j'appelle l'amour guimauve, c'est souvent le premier qui vient à l'esprit. Alors que l'amour, bah, c'est l'amour qu'on a envers des enfants, qu'on élève. Et si on veut qu'ils soient bien élevés, c'est pas de la guimauve. C'est de l'amour et de la fermeté, c'est l'amour et la justice, c'est l'amour et la vérité. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est un petit peu difficile quand on lit 1 Corinthiens 13. C'est pour ça qu'il passe beaucoup de temps et j'ai finalement décidé de retranscrire un peu ce qu'il dit parce que c'est important. Alors, l'amour n'agit pas à la légère. Ah, l'amour n'agit pas à la légère. On se dit, tiens, pourquoi ? Le mot grec utilisé ici évoque le manque d'égard. Ah, le manque d'égard. Il dit aussi de politesse. L'oubli de la décence et en gros, ce qui va blesser ou scandaliser l'autre. Alors, c'est quelquefois important de remonter, parce que la Bible est malheureusement une traduction pour nous. Et du coup, c'est bien de remonter au sens fondamental des mots. Donc, je répète, le manque d'égard, le manque de politesse, l'oubli de la décence, ce qui va blesser ou scandaliser l'autre. Les paroles ou les comportements qui peuvent choquer. Et l'amour va éviter tout ça. Et c'est vrai que j'ai souvent réfléchi à ça, la politesse qu'on enseigne aux enfants, qu'on enseignait à l'école, c'est quelquefois comme un devoir. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut dire ça, il ne faut pas dire ça. Dans la Bible, ce n'est pas vu comme ça. C'est vu comme un fruit de l'amour pour les autres. Donc je vais avoir des égards parce que je ne veux pas blesser. Je vais avoir des égards, je vais être poli parce que je ne veux pas scandaliser l'autre. Je vais me comporter d'une certaine manière et pas d'une autre parce que je sais que c'est quelque chose qui va blesser. Ce n'est pas une série de règles. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de transmettre aux enfants, que ce soit les miens ou d'autres, c'est que être poli, avoir des égards envers les autres, ce n'est pas un devoir. C'est simplement le fruit de l'amour pour les autres. Alors bien sûr, on peut le transformer en devoir. Il faut pas, tu dois pas, etc. Oui, mais en fait, la meilleure éducation, c'est celle qui fait comprendre aux enfants, c'est le fruit de l'amour pour les autres. Et ça, ça m'a fait plaisir qu'il relève ça, parce qu'il a mis des mots sur quelque chose que je ressens depuis longtemps. Et du coup, on peut pas dire, oh mais moi je fais ce que je veux, je suis libre, comme les Corinthiens, je suis libre de dire ou de faire ce que je veux, peu importe ce que les autres pensent. Ben non, si on aime les autres, on va faire attention. Hein? Et je pense une fois, le pasteur de mon église était un petit peu en colère parce qu'il y a des jeunes qui, à la fin du culte, partaient boire un coup au café. Bon, qu'est-ce qu'il y a de mal à boire un coup au café, surtout si on est dans une grande ville. Bon, ça peut se comprendre. Mais je comprends maintenant pourquoi il était un peu enragé, parce qu'il y avait parmi ces jeunes, des jeunes qui avaient été vraiment délivrés de l'alcool. Et quel était l'impact sur eux ? Soit s'ils les avaient accompagnés, soit s'ils les voyaient. Et puis pourquoi moi, j'y retournerais pas ? Alors que c'était une occasion de chute pour ces jeunes qui avaient été délivrés de l'alcool. Je me souviens, on avait... D'ailleurs, il est devenu pasteur maintenant. Il est à la retraite, d'ailleurs. Mais à l'époque, il venait de se convertir. C'était un chef de gang. Alors, alcool, drogue, vol, etc. Hein. Il était même, quand il s'est converti, il était à deux doigts de poser une bombe quelque part. Donc, c'était vraiment pas n'importe qui. Il est maintenant pasteur à la retraite. C'est un ami de notre famille. Et j'imagine ce que ça pouvait faire à des jeunes comme ça qui venaient quitter ce monde-là, de se dire, ben voilà. Donc, c'est ça. Malheureusement, je ne suis pas sûre qu'il l'aurait expliqué. Mais l'explication, elle était là. Attention à mes comportements qui peuvent être une occasion de chute pour les autres. Et si je suis en vacances au fin fond de la France, pourquoi je n'irais pas boire un café au café ? Mais voilà, si après le culte, j'entraîne d'autres jeunes à faire des choses qui peuvent être une occasion de chute pour eux, parce que ça leur rappelle leur vie passée, voilà. Et c'est ça, on n'agit pas à la légère quand on pense à l'autre. Et je crois que c'est beaucoup plus facile quand on aime l'autre. Bien sûr, si on n'en a rien à faire, bon. Mais si on aime l'autre, on va y penser. Ah non, je ne vais pas faire ça. Même si je me sens libre de le faire, moi, dans ma vie. Mais attention, je ne vais pas être une occasion de chute pour lui. Et c'est vraiment l'amour de l'autre qui va faire la différence. Et c'est pour ça, je pense, que quand la Bible dit « l'amour accomplit la loi », oui, c'est beaucoup plus facile de dire « j'aime l'autre, donc je ne vais pas faire ça » que de dire « je dois pas, il faut pas » et de faire de toute sa vie une série de règles. Voilà, moi, j'aime pas trop. C'est pas évident. Et c'est pas l'esprit de la parole de Dieu, du tout. Alors, il y a un point, je sais que j'y reviens assez souvent, les jeunes ne sont pas là, c'est dommage, mais... oui, il y en a quand même. Souvent, je me souviens d'un jeune qui m'avait dit il y a très longtemps, « Ah, mais moi, je ne veux pas être hypocrite. » C'est-à-dire, si je n'ai pas envie de louer Dieu, eh bien, je ne loue pas Dieu. Parce que sinon, ce serait de l'hypocrisie. Uh-huh. Je me suis dit, mais c'est quelque part vrai, mais c'est quelque part faux ce qu'il me raconte là. Et je me souviens, j'avais prié, et puis je dis, mais attends, il y a plein de choses dans la vie qu'on fait et qu'on n'a pas envie de faire. Ben on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Par exemple, je pense, je donne toujours cet exemple des petits-enfants. Est-ce que ça les amuse d'aller se laver les mains avant de manger ? Ben non, ça les amuse pas. Ils veulent manger tout de suite, se débarrasser du repas et aller jouer. Il y a des tas de choses qu'on fait et on n'a pas forcément envie de les faire. Est-ce que c'est de l'hypocrisie ? Ben non. Est-ce que c'est de l'hypocrisie de prendre sa douche parce qu'on a travaillé au jardin, on est en sueur, on n'a pas envie, on a envie d'aller se reposer. Enfin, des tas de trucs comme ça. Il y a des tas de choses qu'on fait et qu'on n'a absolument pas envie de faire parce qu'on a autre chose en tête. Et on peut donner plein d'exemples. Je pense qu'il y en a plein qui vous viennent à l'esprit. C'est pas l'hypocrisie. C'est simplement des choses qui doivent être faites pour mon bien-être, pour le bien-être des autres, etc. Et pour Dieu, se dire, voilà, j'ai pas du tout envie de louer Dieu parce que je suis démoralisée, parce que mes prières n'ont pas été exaucées tout de suite maintenant. Est-ce que c'est de l'hypocrisie de se lever et de louer Dieu ? Ben non. Parce que c'est une louange qui lui est due, parce qu'il nous a créés pour l'adorer, et parce qu'on ne l'adore pas simplement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et se forcer un petit peu à se dire, allez, je vais quand même louer Dieu ce matin, c'est pas de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. Et c'est dommage que parfois, quand on est jeune, on est très sensible à l'hypocrisie. Et c'est normal, j'en parlais souvent avec mes cinquièmes, c'était un thème où on s'entendait très très bien. Parce que j'y suis sensible aussi. Et donc, je les comprenais très bien. Et ils en avaient marre des grenouilles de bénédiction, des personnes qui allaient à la messe tous les dimanches et qui voilà, étaient des monstres de méchanceté toute la semaine. Et je leur disais, ouais, vous avez raison, c'est pas juste, c'est pas ce que Dieu demande, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des choses qu'on fait parce qu'on sait que c'est bien de les faire. Et l'hypocrisie, c'est peut-être alors de dire, je vais me lever avec la louange et je vais prier tout haut et dire, Seigneur, qu'est-ce que je suis heureux de te louer ce matin. Ah, ça tombe dans l'hypocrisie. Par contre, se lever et dire, Seigneur, je te loue, même si je suis de mauvais poil ce matin, ça, c'est la vérité. Voilà. Et je crois qu'il faut savoir faire ça. Il ne faut pas avoir peur de l'hypocrisie. Il ne faut pas tomber dedans non plus en disant, bon, allez, elle a dit, il faut que je loue Dieu, alors Seigneur, je me réjouis ce matin de te louer. Ben non, ce n'est pas le cas. Ben, Seigneur, je suis très mauvaise humeur, mais ce matin je veux te louer parce que tu es Dieu, point. Voilà. Voyez la différence. Donc si les jeunes vous posent cette question, il faut leur répondre correctement. Ils ont raison de détester l'hypocrisie et qu'ils gardent ça dans leur cœur. Mais attention de ne pas mélanger tout. Voilà. Alors, je sais que je me répète, je l'ai déjà dit, mais c'est important. Il ne cherche pas son intérêt. Ah, alors ça, c'est un peu difficile parce que dans notre monde, de ne pas chercher son intérêt, au niveau du travail, au niveau de plein de choses, on se dit, ah oui, il faut te mettre en valeur, il faut voilà, chercher ce qui va te convenir. Alors là aussi, la ligne de démarcation n'est pas toujours évidente, mais ce que Dieu veut dire là, c'est il ne pense pas d'abord à lui-même. Il ne pense pas, chaque fois qu'il a un projet, chaque fois que la personne veut faire quelque chose, la première chose, c'est qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Qu'est-ce que Dieu me demande ? Qu'est-ce que la parole de Dieu me conseille ? C'est pas, c'est mes droits, c'est ma façon de voir, c'est je fais ce que je veux, et puis c'est mon épanouissement. Alors là, il suffit de regarder les pubs, de voir partout, c'est mon épanouissement personnel d'abord. Mais non, parce qu'en fait, quand on cherche son épanouissement personnel, moi je m'en suis aperçue en observant les gens. Ceux qui cherchent vraiment à tout prix leur épanouissement personnel, ben je ne les trouve pas très heureux. Alors que ceux qui font passer Dieu d'abord, qui se réjouissent d'avoir l'approbation de Dieu sur leur vie, eh ben ils sont épanouis. Et on va dire, ouais, mais il y a des tas de chrétiens qui ne sont pas épanouis parce qu'ils s'efforcent. Ben oui, parce que ça ne vient pas de l'amour pour Dieu. Ils se donnent des lois. Je dois pas, il faut, et je me force, etc. Non. L'épanouissement, ça vient quand on fait les choses de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. Et pour moi, c'est une règle de vie. C'est vraiment, ma mère me répétait ça tout le temps, c'est pour ça, moi je répète, c'est l'avantage d'avoir des parents chrétiens. Faire les choses comme pour le Seigneur, ça change tout. Ça change notre regard sur les choses et sur nous-mêmes, et ça change aussi au niveau de l'épanouissement. Je me souviens, c'est ce verset qui m'a sauvé la vie pour apprendre à conduire. Bah oui, j'avais horreur de ça. Et puis, bah, en habitant dans un village, il fallait absolument que je conduise. Et un jour, André m'a ramené une petite coccinelle jaune, là. Et il a dit, voilà, maintenant, je t'ai inscrit au permis. Voilà, l'année prochaine, les enfants rentrent à l'école. Il faut conduire. Oh, quelle horreur. Et j'y suis allée en traînant les pieds. Je n'aimais pas ça du tout. Et ça me faisait peur. Et si et ça. Et Et c'est ce verset qui m'a aidée. Je me souviens, je traversais le pont de Mante, et puis il y a ce verset qui m'est venu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et pas pour les hommes. Ben, je ne vois pas le rapport avec un permis de conduire. Et puis, ben oui, c'est quelque chose que je dois faire pour emmener les enfants à l'école. Donc, je vais le faire comme si je le faisais pour le Seigneur. Eh bien, ça a été beaucoup plus simple. Vous voyez, souvent, l'épanouissement personnel, il est plus lié à la façon dont on va faire les choses qu'à chercher toujours notre propre intérêt, ce qu'on ne veut pas. Alors, les chapitres 8 et 10 de 1 Corinthiens évoquent l'attitude de certains membres de l'église de Corinthe qui faisaient usage de leur liberté sans se soucier de l'exemple qui pouvait influencer les chrétiens plus faibles. On vient d'en parler, mais c'est vrai aussi pour « il ne cherche pas son intérêt ». Alors, il y a un point qu'il soulève qui est assez intéressant. Chercher absolument à être aimé de l'autre. C'est normal, hein, on n'a pas envie que les gens nous détestent. On est humain quand même. On cherche à ce que les gens nous aiment bien et on est un peu triste quand ils ne nous aiment pas. Et puis, voilà, c'est humain, c'est normal. Mais ça peut aller vraiment dans le mauvais sens. C'est-à-dire, si je veux tellement que les gens m'aiment, quand même, je les verrais courir à leur perte, faire des choses qui ne vont pas, tomber dans différentes désobéissances, différents péchés. Je ne vais rien dire parce que je ne veux pas perdre leur amitié. Et ça, ça se voit souvent. Parce qu'on est humain. Oh non, je ne vais rien lui dire parce que sinon, il ne va plus m'aimer. Si je le reprends, je te rends compte. Non, il ne va plus pouvoir me voir. Hein, ce n'est pas possible. Et ça, c'est difficile. Et c'est parfois vrai avec des parents, avec des enfants. Parce que si vous dites à un adolescent, non, non, tu ne vas pas faire ça, c'est chaud, hein. Ils ne sont pas du tout d'accord et puis ils vous détestent carrément pendant 10 minutes. Mais voilà, est-ce que pour autant il faut se taire? Il y a une façon de le faire, ça, c'est clair. Et je bénis Dieu d'avoir eu des parents qui ont toujours eu la bonne manière pour m'interdire les choses. En expliquant, en étant gentil, etc. C'est beaucoup plus agréable que « je t'interdis définitivement de faire ça hein, !» voilà. Il y a une façon quand même. Un respect peut-être aussi de l'adolescent, pourquoi pas. Mais c'est difficile hein, de dire à quelqu'un « écoute, ça, tu fais ça, ça ne va pas, tu vas avoir des problèmes, c'est dangereux ce que tu fais, ça ne plaît pas au Seigneur. » C'est lourd, hein. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et Paul dira ceci, j'aime bien ce verset, parce que parfois on a une image un peu raide hein, de Paul. Mais il était quand même sentimental, Paul. Hein. Et puis, il se forçait lui aussi parfois. Et il dit à un moment, bon, il reprend les Corinthiens, « Même si en vous aimant davantage, je dois être moins aimé de vous. » Voilà, c'est 2 Corinthiens 12, 15. Et il y a des moments où il faut aller dans ce sens. Il ne s'agit pas de se mêler des oignons des autres. Mais il y a des moments où on voit que quelqu'un est en train de prendre une mauvaise direction. Par exemple, je sais pas, moi, je vais imaginer des situations comme je sais pas, un de vos amis qui va signer un contrat avec des gens complètement véreux, mais il va gagner pas mal d'argent, donc il est content. Et là, vous sentez que le Seigneur vous dit « Non, dis-lui de ne pas faire ça, il ne se rend pas compte. Il va peut-être perdre sa situation, ou il va être malheureux, enfin pour toutes sortes de raisons, il va désobéir à Dieu, il va être entraîné dans des magouilles. » Allez lui dire ça. C'est chaud, hein, surtout s'il est tout content. Mais je pense qu'il faut mieux prévenir que guérir. Et il faut y aller. Alors, bien sûr, attention, là aussi, mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. On ne va pas... L'Éternel m'a dit... Oh non. Voilà, on peut dire oracle de l'Éternel. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, merci. Mais franchement, on peut dire les choses avec humilité, dire, écoute, j'ai l'impression que peut-être, voilà... Maintenant, tu fais ce que tu veux, mais j'avais à cœur de te dire ça. Après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Hein, mais c'est important d'être vrai, même si on doit être moins aimé d'eux pendant un certain temps. Oui, et il y a aussi des gens qui, plus tard, vous remercieront d'avoir eu le courage de risquer votre amitié. Hein, c'est pas mal. Alors, au lieu de dire aussi « que peut m'apporter l'autre ?» Toujours dans le cadre « l'amour ne cherche pas son intérêt », ce qu'ils enseignaient à l'école biblique où étaient Florence et Samuel, ils disaient toujours « quand vous vous mariez, au lieu de vous poser la question « qu'est-ce que l'autre peut m'apporter ?» posez-vous d'abord la question « qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre ?» C'est-à-dire on ne cherche pas son intérêt. Et ça, c'est important dans le mariage. C'est important avec les amis, c'est important dans l'église et dans le travail aussi. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Ah, Vouangui n'est pas là. Si, si, où est-ce qu'elle se cache? Elle était avec les enfants. Ah, j'aurais aimé qu'elle donne son témoignage. Tu sais, avec sa collègue. J'ai oublié de la prévenir. Tu veux le donner, Bruno? Ah, tu sais pas? Qui est-ce qui me l'a raconté? C'était un beau témoignage. Tu peux le raconter, Chimène, alors, le témoignage de Vanguy? On va pas la déranger.
Non, en fait, c'est une collègue de travail et sa collègue d'un enfant. Sa collègue d'un enfant qui était déjà déposée à la galerie chaque matin et ses horaires ne lui permettaient pas. Donc, et Vanguy, elle a la possibilité de changer, elle a la possibilité de changer l'horaire. Et cette collègue, c'est quelqu'une, selon Vanguy, qui ne portait pas beaucoup Vanguy à cœur. Donc, c'est quelqu'un qui racontait des choses pas derrière contre Vanguy et tout, même ses attitudes. C'est pas correct envers Vanguy, mais Vanguy, elle s'est proposée de changer ses horaires avec ses collègues pour pouvoir l'arranger à ce qu'elle puisse amener son enfant à l'école le matin et ne plus payer de galerie et respecter ses horaires. Donc, elle était surprise, ils sont allés voir le chef, même le chef était surpris. Vanguy a dit, bah oui, elle n'a aucune contrainte le matin, elle veut bien changer ses horaires pour permettre à ses collègues d'amener son enfant à l'école avant de venir au travail. Et la collègue, elle était surprise et tout, elle a accepté. Et malgré ça, quelques heures après, selon ce que Vanguy me disait, son attitude n'a même pas changé avec Vanguy. Elle avait des chocolats, elle partait en réunion, elle a pris des chocolats. Vanguy était là, elle n'a même pas proposé des chocolats, elle allait avec la réunion. Mais Vanguy, pour elle, elle savait qu'elle avait fait quelque chose et non pour ses collègues.
Merci, merci beaucoup Chimène. Je suis désolée Bruno, mais je... Voilà, ok. Mais vous voyez, c'est important parce que c'est quelque chose... La parole de Dieu, c'est se vit au quotidien. C'est pas les deux heures de culte qui transforment notre vie. C'est le quotidien avec le Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé ce témoignage. Chimène nous l'avait raconté. Et je voulais que Vanguy le vienne et puis j'ai oublié de la prévenir. Mais vraiment, c'est important parce que, voilà... On ne cherche pas son intérêt quand on est chrétien. Et ça, c'est très beau, j'ai trouvé, de la part de Vanguy, surtout quand c'est quelqu'un qui vous tire dans le dos, rendre le bien pour le mal. Hein, c'est formidable. Et ça, c'est vraiment la parole de Dieu, mise en pratique. Alors, il ne s'irrite pas. Alors ça, qui ici ne s'irrite jamais? Voilà, il ne s'irrite pas, oui, aïe, aïe. Alors bon, on peut s'irriter et exploser, on peut s'irriter et serrer les dents, et on peut s'irriter et tout garder à l'intérieur. Ça fait mal à l'estomac. Et Alfred Kuhn pense que peut-être l'apôtre Paul fait allusion aux nombreux procès des Corinthiens. Et il écrit ceci. Alors là, c'est pas moi qui le dis, je me réfugie derrière Alfred Kuhn. L'irritabilité et la susceptibilité comptent parmi les défauts les plus répandus dans les milieux chrétiens. Pour ceux qui ont le livre, c'est page 31. Aïe. Oh là là, pauvres chrétiens que nous sommes. C'est tellement facile et c'est tellement naturel de s'irriter. Je veux dire, c'est naturel. La Bible dit bien l'homme naturel, l'homme charnel. Bah oui, on ne marche pas toujours par l'esprit. C'est tellement facile et naturel. D'abord parce que les autres sont terriblement différents de nous. C'est terrible ça. Ils ne sont pas pareils. Ils voient les choses différemment, ils font les choses différemment. Ils ne les font pas toujours très bien. Et je me souviens de Madame Lejeune qui habitait près de chez moi, qui était venue à un nouvel an avec les chrétiens. C'est l'exemple que je donne tout le temps parce que ça m'avait frappé. Moi, j'avais jamais pensé à ça. Et elle avait toute la soirée, elle avait observé la soirée de nouvel an qu'on avait fait entre chrétiens. Et puis, à la sortie, je me disais, oh, peut-être elle va être touchée par le Seigneur et tout. Et elle me dit, comment est-ce que des gens aussi différents peuvent vivre ensemble et faire tant de choses ensemble? Eh bien oui, elle avait vu juste des gens aussi différents. Et c'est vrai que les CCY à l'époque, c'était avec Yves et Léa Bouchala, etc. Et c'était vraiment, on était très très différents, très très différents. Peut-être encore plus que ce qu'on est maintenant. Mais voilà, elle avait repéré. Et donc du coup, ben, ça peut créer des irritations. Et c'est tellement difficile de comprendre et d'accepter le fonctionnement de l'autre. Parce qu'il se trouve qu'on fonctionne déjà les hommes et les femmes, c'est-à-dire, je veux dire que les femmes fonctionnent bien. Voilà, donc déjà, déjà c'est pas facile, hein, on a des fonctionnements différents, hommes et femmes, des façons de voir la vie différentes. C'est grâce à ça qu'on peut avoir de la complémentarité. Hein. Un puzzle est beaucoup plus beau si les morceaux sont ensemble que si vous les dispersez. Et je pense que des couples qui justement se complètent, c'est super. Parce qu'en général, les femmes ont toutes les qualités. Et puis voilà. Alors, trêve de plaisanterie. On s'agace. Et on commence à dire, il y a cas, faucon. L'irritation passe à la médisance et parfois même à la calomnie. Et on fait des procès. Aujourd'hui, on ne fait plus de procès, j'espère, en tant que chrétien. C'est vraiment quelque chose à éviter. Mais il y a des procès d'intention, parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne l'autre. Et du coup, on s'appuie sur nos ressentis. Et comme quelqu'un disait, le sentiment. Et nos ressentis peuvent être totalement faux et complètement à l'opposé des faits réels et objectifs. Et je suis étonnée parfois de certains ressentis. Je dis, mais c'est pas possible. Et l'évidence, là. Ben oui, mais le ressenti parle fort, très fort, trop fort. Et on s'agace, on s'irrite, et ça peut aller très loin. Et c'est comme ça que les Corinthiens se retrouvaient avec des procès sur le dos. Le ressenti, c'est terrible. C'est un bon exemple d'irritation, on peut donner. C'est l'irritation actuellement contre le gouvernement. Alors, il y en a qui traitent ça avec humour. Bon, j'approuve pas toutes les chansons de Pierre Perret, mais franchement, sa chanson sur les déconfinements est une perle. Ils nous ont confinés, puis déconfinés, puis reconfinés. Voilà. Bon, on peut avoir de l'humour, ça fait du bien, ça calme un peu l'irritation. Mais il y en a d'autres qui se posent des questions, simplement, et d'autres qui entrent dans la colère et même dans les procès. L'irritation atteint son comble. Et quand je rouspète, moi aussi, l'autre jour... André me disait, mais qu'est-ce qu'on ferait à leur place ? Ça ne veut pas dire qu'on leur donne raison, mais qu'est-ce qu'on ferait à leur place ? Est-ce qu'on est conscient du poids de leurs responsabilités ? Et est-ce qu'on est conscient de la pression des lobbies ? L'insistance de conseillers qui ne sont pas toujours compétents, qui disent n'importe quoi, et qui sont parfois même carrément peu recommandables parce qu'ils sont achetés par des labos, etc. Et puis, est-ce qu'on est conscient des chantages financiers ? Et ils doivent subir tout ça. Alors déjà, au niveau de ma petite mairie de campagne, on est moins de 1000 habitants, quand j'étais adjointe, j'ai assisté deux fois à des chantages financiers. Dans un petit village, deux fois. Et même une fois où c'est allé très loin, on va vous payer ça et vous avez tout intérêt à être en bon terme avec nous. Le problème, c'est qu'on avait un maire extrêmement intègre qui n'a jamais cédé, même à la menace. Mais il faut du courage, il ne faut pas avoir peur. Mais deux fois, j'ai assisté à des chantages comme ça. Et c'est... vous vous rendez compte, dans un petit village, alors vous multipliez ça sur 70 millions d'habitants au gouvernement. Et c'est vrai. Même si je continue à m'irriter sur certains trucs. Voilà, l'irritation, ça va jusqu'au procès. Et le Seigneur nous dit de ne pas nous irriter. Alors qu'est-ce qu'on fait devant ce gouvernement problématique ? Eh bien, on prie. On prie pour eux. La Bible dit « Priez pour les autorités ». Elle ne dit pas « irritez-vous, faites des procès, calomniez-les, racontez du mal partout », mais on reconnaît leurs erreurs, on n'est pas idiots non plus, hein. On reconnaît leurs erreurs, mais on prie pour eux. Voilà. Et je me souviens, en 98, Isabelle nous avait donné un verset, c'est dans le psaume 37, « Ne t'irrite pas, ce serait mal faire ». Carrément, s'irriter, c'est mal faire. Bon, du bon, c'est, je m'irrite, mais je ne le montre pas, etc. Non, non, Dieu, il voit notre cœur, hein. Il sait ce qu'on pense. Il sait que ça peut même parfois ne pas correspondre à ce qu'on dit. Il nous connaît. Donc ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Prions. La susceptibilité, par contre, c'est un problème délicat. Hein ? Ah oui, mais c'est bien ça. Ah, André dit, à juste titre, « Père, n'irritez pas vos enfants. » C'est normal qu'il s'adresse au père, entre nous, hein, franchement. Il l'a cherché. Hein. Père, n'irritez pas vos enfants. Oui, c'est bien. Alors là, les jeunes, là, retenez ce verset. Quand votre père vous irrite, n'hésitez pas, citez le verset. Père, n'irritez pas vos enfants. Oui, parce qu'il y a une façon aussi. Voilà. Et la susceptibilité, c'est un problème délicat. Il relève directement de la relation d'aide. Parce que si les gens sont susceptibles, c'est parce que c'est lié à des mauvais souvenirs, c'est lié à des souffrances. On n'est pas susceptible pour le plaisir. Et donc ça, il faut se rappeler. Et c'est l'amour de Dieu qui guérit les cœurs blessés. Si on veut bien guérir, bien sûr. Dieu voit nos souffrances, il est amour, et lui, il ne s'irrite pas. Et ça, c'est quelque chose de formidable, parce que si parfois, et là, je pense que certains d'entre nous, je pense, ou alors à différents moments de notre vie, on peut avoir une image de Dieu, le Dieu très colérique, là, qui n'est pas content, qui vous attend au coin du bois, et qui va vous sauter dessus parce que vous avez fait quelque chose de mal. Mais Dieu ne s'irrite pas de cette manière-là. Alors, dans la Bible, oui, on voit Dieu qui s'irrite, mais c'était particulièrement face à l'hypocrisie et à l'idolâtrie de son peuple. Mais quand vous avez fait une bêtise, dit une bêtise, et que vous ne sentez pas bien, oh là là, je sens que Dieu n'est pas content de moi, etc. Attention à vos ressentis, la Bible est claire, Dieu est amour. Il ne va pas s'irriter contre vous parce que vous avez fait une bêtise, mais il vous tend la main pour vous pardonner et pour vous guérir. Si vous le voulez bien, bien sûr, si vous voulez demander pardon. Et il faut mieux dire, Seigneur, je te demande pardon, j'ai pensé ça, j'ai dit ça ou j'ai fait ça, plutôt que de se morfondre avec une image de Dieu qui est fausse, d'un Dieu en colère après vous, parce que tu as mal géré telle situation familiale, tu as mal fait ceci, tu as mal fait cela, tu as mal parlé, et bien du coup, ah oui, Dieu est irrité, et on arrive à ce que avait dit le maire du village d'à côté, qui avait eu des parents chrétiens, Monsieur Bourreil, qui disait, non, je lui avais dit, mais priez, vous êtes dans une situation difficile. Vous savez quand même, il était allé à l'école du dimanche et tout, je savais. Et il m'avait répondu, non, je suis trop loin de Dieu. Autrement dit, il voyait Dieu comme quelqu'un d'irrité contre lui. Du coup, il ne priait pas. Dommage. Dieu veut nous guérir. Dieu n'est pas à notre image, c'est nous qui sommes créés à son image, mais il n'est pas à notre image. Et si on s'aime les uns les autres, on va aussi rechercher la guérison. Et on va aussi guérir de cette irritation qui monte parfois parce qu'on est différent. Et c'est normal, je veux dire, quelque part, c'est normal de sentir cette irritation monter, mais bon, Seigneur, voilà, je prie pour cette personne et on ne va pas laisser l'irritation nous dominer. Alors, le 7, c'était « Il ne trame pas le mal ». Alors, c'est marrant parce que, suivant les versions, on a un peu de tout. Et il y a un verset qui m'a toujours gênée dans 1 Corinthiens 13, c'est « Il ne soupçonne pas le mal ». Et souvent, je me disais, mais c'est pas cohérent avec d'autres versets de la Bible, où Dieu nous demande d'être prudents comme des serpents. Il nous demande d'avoir du discernement, et il y a le don de discernement. Alors, comment est-ce qu'on peut ne pas soupçonner le mal si on a du discernement? Alors, ne pas soupçonner le mal là où il n'est pas, ok. Mais j'aime bien cette traduction, il ne trame pas le mal. Il ne trame pas le mal. Et il y a une autre possibilité de traduction que j'aime beaucoup aussi, c'est celle qu'a choisie Colleen Urquhart d'ailleurs. Et les Good News for Modern, beaucoup de versions anglaises ont choisi cette traduction. Il ne garde pas un compte de toutes les mauvaises choses qu'on a commises. Do not keep a mental record of the wrongs others have committed. Donc, Dieu ne tient pas une comptabilité de nos fautes. L'amour ne tient pas une comptabilité de nos fautes. Et ça, c'est précieux. Parce que là aussi, parfois, on peut avoir une mauvaise image de Dieu et se dire, oh là là, tout ce qui est inscrit dans son livre, tout ce que j'ai fait de travers depuis ma naissance, etc. N'oublions pas le pardon, n'oublions pas la croix. Il ne tient pas une comptabilité. Et l'amour ne tient pas la comptabilité de nos fautes et de nos erreurs. Alors, Paul utilise, c'est pour ça que ça a été traduit comme ça dans beaucoup de versions anglaises, parce que Paul utilise un terme de comptabilité. Et il l'utilise aussi à propos de la justification. Alors bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un spécialiste. Et c'est important parce que c'est pour ça que les Anglais ont gardé ce mot. Il ne tient pas une comptabilité de toutes nos fautes. Et on est appelé à faire la même chose. Et ça, c'est pas facile. Hein, parce que c'est agréable parfois de dire, on a fait ça. Bon, et non, il a tout réglé à la croix, il ne comptabilise pas nos fautes. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on aille vers lui pour recevoir le pardon qu'il a accompli à la croix. Donc, allons vers lui comme le fils prodigue est allé vers le père. Franchement, le père du fils prodigue, il est admirable quand même. Hein. L'autre, il a fait bêtise sur bêtise et il l'attend avec amour. Vous remarquerez qu'il ne va pas le chercher. Il faut que ce soit sa décision de demander pardon et de venir vers le père. Mais une fois que la décision a été prise et qu'il est venu demander pardon, il a été accueilli comme un prince. Changé de vêtements, on a fait une fête. Et voilà, la repentance, le pardon, c'est un sujet de joie, c'est un sujet de fête. Et c'est dommage, il y a des pays sur Terre, on m'a dit, pour qui le fait de se repentir est une faute. On ne doit jamais admettre ses erreurs. C'est dommage, c'est complètement le contraire de ce que la Bible nous demande. Et le père du fils prodigue, fantastique. Il a attendu que la décision vienne de lui, qu'il vienne demander pardon, mais une fois qu'il a demandé sincèrement pardon, c'était réglé. Et réfléchissons à ça, surtout si parfois vous avez une image de Dieu, oh, il m'en veut pour ci, il m'en veut pour ça, j'ai fait ça de travers, etc. Pensez au fils prodigue, allez vers le Seigneur, allons vers le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, j'ai mal agi. Il a tout pris à la croix, donc il faut absolument garder cette bonne image de Dieu. L'amour ne tient pas à une comptabilité de nos fautes.